Radio Foot International.
Éric Mamrut.
Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Foot International sans Madame Annie, que vous retrouverez demain, mais avec un casting de choix. Un ancien joueur international, ex-capitaine du Sili National de Guinée, j'ai nommé Monsieur Ibrahima Traoré. Bonjour Ibrahima.
Bonjour.
L'un des meilleurs spécialistes du football africain de la place est avec nous. Gardien de but émérite à ses heures perdues. Monsieur Franck Simon, bonjour, comment ça va?
Bonjour Eric, bonjour à tous. Je reprends du service dans quelques jours. Je remets les gants, enfin.
La langue de bois n'est pas son truc. Et on aime ça, le toujours très cash, mais très sympathique. Naïm Monia, bonjour.
Salut Eric, salut à tous, merci beaucoup.
Un trio de choc idoine pour aborder nos sujets du jour, à commencer par le sévère coup d'arrêt de l'équipe de France lors de la Ligue des Nations. Aucune victoire en 4 matchs ce mois-ci, un titre déjà envolé. Simple avertissement aux vraies crises. Bien malvenu à 5 mois de la Coupe du Monde au Qatar, nous tenterons d'y voir plus clair avec le soutien de notre spécialiste des Bleus, Antoine Grenier. L'équipe de France y connaît depuis hier son troisième adversaire au Mondial 2022, ce sera l'Australie, tombeuse du Pérou à Doha grâce notamment à son fantasque gardien Andrew Wedmain, entré en jeu juste avant la séance des tirs au but, un pari de plus en plus tenté par les sélectionneurs. La Tunisie, autre adversaire des Bleus au Mondial 2022, également le sourire. Les Aigles de Carthage ont remporté aujourd'hui la Kirin Cup au Japon en battant le pays au 3-0. Des Aigles de Carthage qui reprennent de la hauteur grâce apparemment à leur nouveau sélectionneur Khalel Kadri. Nous aborderons enfin les malheurs de Sylvain Gbowo. Le gardien numéro 1 de la Côte d'Ivoire a été suspendu 18 mois par la FIFA hier suite à son contrôle antidopage positif. Il ne pourra pas jouer avant le 23 juin, soit le jour du match d'ouverture de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Cette sanction est-elle juste ou pas? Nous en débattrons lors de ce Radio Foot International préparé avec la complicité de Sarah Loubacouche, réalisé par Laurent Salerno. On débute par la déconfiture des Bleus.
On sait que cette équipe de France ne devrait pas être à cette place-là. C'est un match très 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 important.
Un pénalty d'entrée.
Faute de Konaté.
Et Meignan a failli la sortir. Ça se joue d'un rien et la Croatie ouvre le score.
On est les tenants du titre de cette Nation League. Ça nous tient à cœur de pouvoir faire un gros match et gagner cette bataille.
Non, ça ne sourira pas. Ça ne sourira pas et ça sourit au contraire aux Croates.
Ils voulaient la victoire, ils ont eu la défaite hier, les hommes de Presnel Kimpembe, capitaine d'un soir, 1-0 devant la Croatie. La deuxième défaite des Bleus dans cette séquence Ligue des Nations de juin, après celle contre le Danemark le 3 juin, toujours au Stade de France, ajoutée aux deux résultats nuls en Autriche et en Croatie. Cela fait donc aucune victoire en 4 matchs, soit la pire série de l'équipe de France depuis 2010. Antoine Grenier, bonjour.
Bonjour Eric, bonjour tout le monde.
Vous êtes notre monsieur équipe de France à RFI depuis 2017.
Et en France-Côte d'Ivoire à Lens.
Beau match pour démarrer. Alors, qu'est-ce qui leur a manqué à ces Bleus lors de cette séquence de 4 matchs? Beaucoup de choses apparemment. Si on devait identifier tout d'abord les mots MAX des Bleus durant cette séquence.
On pourrait parler de 11 jours en enfer, en fait. Un rassemblement de juin avec 4 rencontres, c'était beaucoup. On le savait, on l'avait annoncé avant. On a vu une équipe de France fatiguée qui marque 2 points sur 12 possibles dans une compétition. C'est extrêmement inhabituel, qui est à la dernière place désormais de son groupe 1. D'ores et déjà hors jeu pour la phase finale de cette Ligue des Nations et maintenant même menacé de relégation en Ligue B. On a vu des tâtonnement tactique de la part de Didier Deschamps, qui était d'abord, dans un premier temps, fidèle à sa défense à 3, puis il est revenu à une défense à 4, sans beaucoup plus d'efficacité défensive. Les Bleus qui ont marqué 3 buts en 4 matchs, ce qui n'est pas beaucoup quand on connaît la force offensive de l'équipe de France. Les Bleus qui ont encaissé 5 buts en 4 matchs, ce qui est beaucoup pour une équipe coachée a priori par Didier Deschamps. 2 défaites à domicile, c'est aussi pratiquement du jamais vu. Il y a beaucoup de points, que ce soit collectivement ou individuellement, qui vont devoir être gérés par l'encadrement de l'équipe de France d'ici à septembre et d'ici à novembre, évidemment.
C'est le pire rassemblement de l'équipe de France sous l'ère Didier Deschamps depuis 10 ans. C'est le pire. C'est, pour moi, c'est pire que la tournée en Amérique du Sud en 2013, où Deschamps était arrivé depuis pas très longtemps, où l'équipe était moins forte, on était encore en reconstruction, on avait encore des joueurs qui étaient là, faute de mieux. On s'était tapé le voyage et jouer en Amérique du Sud, c'est pas facile. On avait joué 3 grosses équipes. Là, non seulement on n'a rien montré dans le jeu, ni devant, ni au milieu, ni derrière, certainement pas derrière d'ailleurs, au milieu non plus, vous me direz. On a été complètement à la ramasse. Individuellement, à part Nkunku, personne n'a marqué de points, ni les cadres, ni, les jeux, ni ceux
on
qui
va
arrivent.
Tout ça.
Et alors, le truc moi, qui me choque le plus, c'est que nos adversaires ont bien joué, mais on n'a même pas eu affaire à de grosses équipes. La Croatie, c'est une équipe qui a été très bonne en 2018, mais qui depuis 4 ans vieillit et elle utilise quasiment toujours les mêmes joueurs. C'est Modric hier à 36 ans, qui a fait 47 ou 48 matchs dans l'année, Modric cette saison. Regardez encore ce qu'il fait. On a quasiment la même équipe. L'Autriche, mais avec toutes les qualités qui sont les siennes, si vous retirez Alaba et Sabitzer, c'est une équipe de deuxième moitié de tableau de Bundesliga. Et le Danemark, qui a fait une demi-finale de l'Euro, ce qui est toujours une équipe un peu quinquin, parce que oui, il y a des individualités qu'on voit dans des bons clubs, mais collectivement, on prend 2 buts dans les dernières minutes. C'est pas non plus une équipe qui nous a mis à l'amende. Et on a réussi à perdre face à des équipes qui étaient plus faibles que nous dans le groupe si vous prenez tous les 4 groupes de la première division de Ligue des Nations, on est dans le groupe le plus faible. Et on est dernier.
Alors, l'une des grandes excuses avancées ou circonstances atténuantes à avancer, c'est cette fatigue de fin de saison. Est-ce que c'était un scénario à annoncer, Franck ? Est-ce que c'était, immanquablement, on allait voir une équipe de France possible ?
J'ai l'impression, en écoutant Antoine, qu'effectivement, c'était prévisible. On devait s'attendre à ce que certains joueurs, certains cadres soient plus fatigués que d'autres. Quand bien même tu as un groupe élargi, il y a un moment donné où physiquement, voilà, tu vas au bout du truc. Et ce n'est pas qu'une lassitude physique, ça peut être aussi une lassitude mentale aussi à un moment derrière. Donc je crois aussi à cet élément-là. Je pense que c'est aussi un élément important, mais il n'explique pas tout.
Ibrahima Traoré, vous êtes joueur encore, admettons. On vous dit, après, c'est la fin de la saison, mais quand même, tu vas encore faire 4 matchs en sélection pour une compétition assez nouvelle, cette Ligue des Nations. Franchement, vous dites chouette, ou alors, oh là là, encore, moi, j'ai envie de partir en vacances.
Oui, mais ça dépend pour les joueurs. Pour les joueurs de l'équipe de France, c'est forcément plus compliqué parce que c'est des joueurs titulaires dans leur club qui ont eu beaucoup de pression, qui ont joué énormément de matchs. On voit que les nations qui s'en sortent le mieux, c'est les nations qui ont finalement des joueurs qui ne jouent pas beaucoup et qui sont encore frais pour venir faire des résultats contre ces équipes-là. Après, le calendrier, il est connu. Je pense qu'on l'a tous critiqué, que c'est un peu n'importe quoi de mettre 4 matchs en 1 jour, sachant les risques de blessures, en sachant la fatigue physique et mentale. Les joueurs se plaignent d'ailleurs beaucoup de cet aspect-là. Après, la vérité, c'est que moi, j'ai du mal à tirer beaucoup d'enseignements parce qu'on a vu, on parle de la France, évidemment, parce que ça n'a pas été convaincant du tout. Mais quand on voit que l'Allemagne n'a pas été bonne, l'Angleterre non plus, les Pays-Bas, ils ont eu des difficultés, la Belgique, elle a perdu, l'Italie ne produit plus rien. Donc c'était prévisible et pas aussi dramatique pour moi que ça.
Ce risque de blessure, justement, quelques mois de la Coupe du Monde, ça peut jouer, ça, dans les têtes ?
J'entends le risque de blessure, l'usure physique, l'usure mentale, je l'entends, mais d'abord, on le savait. On savait qu'en mettant une Coupe du Monde au mois de novembre, il faudrait forcément passer par un rassemblement avec un volume de matchs supérieur. Et la deuxième chose, c'est que c'est pareil pour les autres. Le Portugal, ses joueurs sont titulaires dans les gros clubs. Regardez ce qu'ils font. Regardez la Suisse. Regardez la Serbie. La Serbie, ils ont des joueurs titulaires dans la plupart de très bons clubs et ils font un rassemblement très correct.
Le Portugal a perdu contre les
Oui, mais enfin, le Portugal, il a aussi gagné pas mal de matchs. Il a plutôt pas mal joué. Donc, j'entends l'histoire de la fatigue et de l'usure. Oui, mais premièrement, c'est pareil pour tout le monde. La deuxième chose, c'est qu'après ce rassemblement-là, il y a 2 matchs en septembre et après, c'est la Coupe du Monde. Il y aura une semaine de préparation entre la pause du championnat et le début du mondial. Ça veut dire que ce rassemblement-là servait aussi de revue d'effectifs, de faire les derniers essais et commencer à travailler sur les animations, les systèmes. Donc on le savait aussi.
Ouais.
La troisième chose, c'est qu'on nous a gavé, et là je pèse mes mots, gavé de chez gavé, depuis 6 mois, 1 an, avec le réservoir de l'équipe de France. On a les meilleurs jeunes, le vivier de la banlieue parisienne, c'est mieux que le Brésil, c'est mieux que l'Europe de l'Est, c'est mieux que l'Argentine, c'est mieux que machin. On a fait tourner, on a vu des... Et au final, on se retrouve dans une équipe où finalement, il n'y a pas beaucoup de mecs qui ont le niveau international. Et ceux qui l'ont, ils n'ont pas franchement marqué des points.
Alors justement, Antoine Grenier, qui a été lancé, enfin, il y a eu pas mal de, de jeunesse, de nouveau, et à l'arrivée, qui s'en est à peu près sorti ou pas ?
Bah, le joueur qui aura gagné vraiment des galons dans ce rassemblement, c'est Mike Maignan. Oui. Il a réussi à mettre deux fois Hugo Lloris sur le banc. Alors, c'est dans une
lui,
idée,
dans
une préparation.
Hein.
Il est déjà dans les 23, mais il commence à s'imposer. Il a joué deux matchs sur quatre, ce qui est encore, si on prend les rassemblements précédents,
ah oui, non,
c'est pas du
pas.
Tout dans
même,
les habitudes
avec
de Didier Deschamps.
Ça n'arrivait pas.
Surtout avec un joueur comme Hugo Lloris qui arrive à bientôt 140 sélections, qui est un taulier, qui est le capitaine, mine de rien, de cette équipe de France. Mike Maignan commence à se montrer de plus en plus comme une alternative crédible à Hugo Lloris, et peut-être plus vite
Maignan,
qu'on pourrait
Maignan
l'imaginer.
Et Tchouaméni, aujourd'hui, le débat, c'est de savoir s'ils sont dans les 11 et pas dans les 23. En fait, c'est ça, Maignan et Tchouaméni, dans les 23, ils y sont sans problème. Après, la question qui va se poser, comme pour Tolisso en 2018, c'est est-ce qu'on le titularise ? Parce qu'aujourd'hui, son niveau fait que c'est compliqué de laisser un type comme ça sur le banc.
Alors, il y a Aurélien Tchouaméni également, donc le nouveau milieu de terrain du Real Madrid, qui lui aussi a montré des choses intéressantes. En élargissant un petit peu, on peut parler de Christopher Nkunku,
oui, oui.
Qui a été titularisé lors de la dernière rencontre contre la Croatie, à côté de Karim Benzema et Kylian Mbappé. En partie parce qu'il fallait compenser la méforme d'Antoine Griezmann, qui est juste à la cave en ce moment. Et du coup, il fallait un joueur qui soit un petit peu plus dynamique. Et Christopher Nkunku pouvait apporter quelque chose sur l'aile, plus que ce que ne pouvait apporter
Coman
un Kingsley
Coman. Et Coman n'est pas non plus hyper efficace actuellement.
Mais parce qu'il est utilisé un peu bizarrement, Kingsley Coman. On lui demande de faire beaucoup plus de tâches défensives qu'on en demande à Nkunku. Donc, est-ce qu'on peut vraiment les comparer tous les deux ? Non. Après, je ne veux pas rentrer dans les circonstances atténuantes de généraliser un petit peu. Mais ce rassemblement, il a commencé de manière un peu curieuse, sans Didier Deschamps, qui a dû rentrer suite au décès de son père. Il est rentré dans sa famille. Donc, le premier match, c'était Guy Stéphane qui était sur le banc. Ensuite, Didier Deschamps, il est revenu. Il n'avait clairement pas envie d'être là, très clairement. On l'a vu devant les médias quand il se présentait devant la presse.
Ça, c'était une de mes questions à venir. Mais justement, qu'il a été touché moralement tout au long cette séquence ? Ça, Ibrahima, quand on sent qu'un, je sais pas si ça vous est arrivé, un sélectionneur, un entraîneur, et bah justement il connaît une mauvaise période où justement il vous insuffle moins d'énergie à l'équipe, ça, on le ressent, ça peut influer ça.
Oui, on sait que Deschamps il est très influent pour son groupe. Nous, on l'a vécu une fois avec Michel Dussuyer lors d'une CAN qui avait perdu aussi un de ses parents. Et après, c'est la force du groupe. Alors que si Deschamps, il n'est pas là un match, on ne peut pas nous dire qu'il y a quand même Hugo Lloris, il y a Benzema, il y a des joueurs cadres, il y a des joueurs qui sont tous d'excellents joueurs, la plupart capitaines dans leur club. Donc évidemment que pour un match où Deschamps n'est pas là et qu'il n'est pas dans son assiette parce qu'il a un drame personnel, le relais doit être aussi pris par ses joueurs.
Bah, c'est la question que ça pose. Est-ce qu'il y a dans cette équipe une capacité à se transcender ? Hugo Lloris l'avait dit avant le match contre la Croatie, le premier match contre le Danemark, pardon, le premier match du rassemblement, il avait dit oui, le sélectionneur n'est pas là, mais c'est à nous de compenser. Or, personne n'a compensé.
C'est pas nouveau que l'équipe de France.
Personne n'a pris le relais.
C'est pas nouveau que l'équipe de France manque de leaders, de leaders.
Mais surtout en ce moment où des jeunes étaient lancés, donc oui, on voulait des leaders, mais en même temps on les alignait pas.
Justement, pour revenir un petit peu à cet aspect, équipe de France laboratoire, quelques mois avant une phase finale de compétition, parce que c'est de cela dont il s'agissait. On ne peut pas leur demander d'assumer ce statut de leader. On l'a demandé déjà très très tôt à Mbappé, mais bon, lui, c'est un phénomène. Hein. Donc, il s'en est très très vite accommodé.
Il y avait des Konaté, des Saliba, des Camara, on ne peut pas leur demander ça.
Je pense que eux, contrairement à certains tauliers qui sont arrivés rétamés, cuits, etc., eux, tout l'intérêt, c'était d'aller chatouiller justement ces garçons qui sont considérés plus ou moins comme des titulaires ou plus forts qu'eux dans la rotation.
Alors,
c'est plus intéressant pour un jeune, un gars qui débarque.
Il faut pas oublier un truc, c'est que
des tauliers.
Ces mecs-là sont arrivés il n'y a pas longtemps. La grande majorité d'entre eux n'est pas sûr d'être dans les 23. Et ils ont raté leur premier match. Ces mecs-là perdent leur premier match. Si on bat le Danemark, même de manière pas incroyable, pas forcément 4-0, mais si on bat le Danemark, si on a une victoire d'entrée avec l'équipe qui met, peut-être que derrière, si tu es en difficulté face à l'Autriche ou face à la Croatie, ces types-là n'ont pas le même comportement. Mais ces mecs-là arrivent, ils sont nouveaux, en concurrence, la plupart appelés parce que le type qui aurait dû être appelé, Konaté est appelé parce que Fofana, Leicester, il se marie. La vérité, c'est que c'est Fofana qui aurait dû être là, Wesley. Donc, tu fais venir des mecs qui sont nouveaux, qui n'ont pas aucun repère, qui n'ont pas de certitude d'être là au prochain rassemblement, et tu perds le premier match, et je vous le répète, pas forcément face à une grosse équipe, Derrière, tu peux pas aller faire le leader et dire « toi, replace-toi, toi, cours, toi, mets-toi là, toi, machin ». Parce que les types ont tellement le trouillomètre à zéro de rater les matchs, et c'est ce qu'ils ont tous fait derrière. Tous, à deux exceptions près. Moi, je suis d'accord avec les joueurs qu'a sorti Antoine, c'est les joueurs qui ont marqué des points, et pour un coucou, pas forcément en élargissant. Mais les types, ils se sont tellement ratés tout de suite que c'est compliqué derrière d'être un leader. Là, c'est au cadre. C'est au cadre d'être là. C'est Benzema, même s'il est revenu il n'y a pas longtemps, c'est un cadre. Regardez la saison qu'il fait, c'est un cadre. Hugo Lloris, ça n'a jamais été un grand leader, machin, mais au moins, il a quand même 140 sélections. Et après, c'est un mec comme Mbappé. Mbappé, tu as été le type le plus important de France pendant 3 semaines, là, et tu n'es pas capable de dire à tes copains de courir, de te replacer ou de machin.
Il a failli pas jouer, il a pas joué tous les matchs.
Donc voilà, il manque. Mais comme le disait Ibrahima, il manque un Pogba. Il manque un Kanté. Moi, je pense que même un Varane sur une canne, moi, je le prends parce que lui, il va, s'il faut hausser la voix, s'il faut hausser le ton, s'il faut se bagarrer, s'il faut courir même à la place d'un autre, il va le faire. Il fait pas tout bien, Varane, hein, ni en club, ni en sélection. Mais on peut pas lui reprocher de pas tout donner.
Non, mais tu peux pas reprocher non plus, pas totalement, au sélectionneur de l'équipe de France de justement de donner un peu de grain à moudre à ces jeunes-là.
C'est aussi à eux d'aller chercher, à convaincre, tout simplement.
Mais tu sais, ils n'ont pas réussi, ils savent qu'ils n'auront pas nécessairement une deuxième chance derrière.
Et c'est normal.
Ça fait le jeu des tauliers, mais on attendait d'eux qu'ils marquent des points. Franchement, je me dis, avec ces garçons-là, peut-être une possibilité que l'un d'entre eux puisse être
Il y a deux choses. La première, c'est que je te le répète, le fait qu'ils aient perdu le premier match les a mis dans une dynamique, les a mis dans un état d'esprit où ils avaient soudainement beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Et la deuxième chose, c'est qu'on a, et je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 6 mois qu'on nous gave avec le réservoir des Bleus. Il y a 3 jeunes à ce poste-là. Il y en a 2 jaunes. Dès que tu as un type qui fait 2 passements de jambes sur un terrain et qui est français, il faut tout de suite que Deschamps le prenne parce que c'est la relève, parce que c'est déjà meilleur que machin. On va te sortir une statistique. C'est la première fois qu'un joueur fait 2 trucs entre la 17e et la 28e minute. Et peut-être qu'on a pris des types qui n'étaient pas prêts.
Alors ouais, moi, je dis, forcément le niveau international.
Je dis Camara, lui, il a été pris parce qu'il fallait le barrer pour le Sénégal. Lui, c'est une sélection préventive.
Exactement.
On l'a pris parce qu'il fallait le barrer, mais ce n'est pas pour tout de suite. Mais des mecs comme Guendouzi, comme Saliba, comme Konaté, peut-être qu'il ne fallait pas les prendre. Et peut-être qu'un mec comme Rabiot, il ne faut plus le prendre. Parce qu'à un moment donné, lui, il n'a pas l'excuse de la jeunesse. Il a commencé la Ligue des Champions en 2014-2015 avec le PSG. Il était encore avec Zlatan à l'époque. Il est sélectionné en équipe de France. Il avait refusé de faire l'Euro comme réserviste. On est en 2022, ça fait 6 ans. Il est titulaire à la Juve. Ce mec-là, soit il fait une passe vers l'arrière, soit il perd le ballon. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il n'a pas le niveau international. À un moment donné, il faut aussi se poser les bonnes questions. Peut-être rompre. Et si on veut que Deschamps... Moi, je suis le premier à dire qu'il faut que Deschamps revienne à des fondamentaux. Sa défense à 4, son style pas Jojo à regarder mais qui est efficace, et c'est besogneux et c'est tout ce qu'on veut. Je veux bien, mais s'il y a un truc avec lequel Deschamps doit peut-être rompre maintenant, puisqu'il semble partir jusque 2024, cette espèce de fidélité, de logique de groupe, on a fait ça ensemble, donc je vais te garder. Je sais que t'es pas bon, je sais qu'il y a meilleur que toi, mais comme je te connais depuis longtemps, je te garde. Ça commence à nous rappeler les raisins, faut qu'il arrête.
Oui, mais en tout cas, il a testé des choses, en tout cas au niveau des joueurs. Est-ce que c'était le bon moment, Antoine, quand même, pour à 6 mois de la Coupe du Monde, et ben justement, voir ce que valent véritablement ces jeunes-là, quoi.
Ben, on a pu se rendre compte que certains sont encore trop tendres.
Donc c'était le bon moment pour le faire, s'en rendre compte, quoi. Il fait sa revue d'effectifs, après il tire les conclusions. C'est fait pour ça aussi ces matchs-là.
Oui, ils sont faits pour ça. De toute façon, on n'a plus de match amicaux. Donc si on n'essaye pas en Ligue des Nations, on n'essaye jamais.
Après, ça passe tout en casse en même temps.
Eric, on a raté l'euro. D'accord ? On a raté l'euro. Et tu ne prends pas des mecs que tu connais, qui n'ont pas joué à 1 euro. Derrière, on a fait le Final Four de Ligue des Nations. On a tellement voulu se rattraper de l'euro raté qu'en fait, on a fait jouer les 4 de l'étolier. Derrière, on fait des éliminatoires qui ne sont pas incroyables. On fait. La Ligue des Nations, la preuve, on n'est pas bon, on perd 4 matchs. Donc au final, tu es dans une dynamique de résultats tellement négative qu'à un moment donné, ça va devenir de plus en plus compliqué d'essayer des mecs puisque tu as des résultats de plus en plus négatifs. Donc tu vas dire, qu'est-ce que je fais? Je continue d'essayer des types que je vais mettre dans un bourbier pas possible parce qu'on a une vie groupe qui est nulle, des résultats qui ne sont pas bons, un style de jeu, on est critiqué. Ou alors, j'essaye un maximum de sécuriser les résultats, de retrouver une dynamique machin, et à ce moment-là, clac, je ferme la porte et je garde les types avec qui j'ai l'habitude de bosser depuis 6, 8, 10 ans. Là, aujourd'hui, l'état d'esprit de Deschamps, c'est ça, à mon avis. Hein. Il ne va pas réouvrir la porte.
Il en reste combien de ces anciens, d'ailleurs, Antoine, de la précédente campagne de mondiale?
Il y en avait d'autant moins sur ce rassemblement-là que Raphaël Varane est parti
blessé.
Kanté était titulaire contre le Danemark, mais il était hors de forme. Il est parti ensuite. Lucas Hernandez, c'est la même chose. Au final, qui il reste de...
Lloris, Pavard, Kimpembe, Griezmann, Mbappé. Et après, c'est... sur le banc, après, c'est les mecs, après, c'est des remplaçants.
C'est une poignée, quoi. Il en reste c'est... une poignée, finalement.
Après, c'est des remplaçants.
Là, je commence à... Enfin, c'était déjà il y a 4 ans, la Coupe du Monde en Russie, donc forcément...
Tu peux pas t'appuyer non plus ad vitam aeternam sur ces gars-là, quoi.
Non, mais bah, la vraie difficulté pour Didier Deschamps et le casse-tête à régler d'ici la Coupe du Monde, ça va être de faire en sorte d'arriver à observer si sa vieille garde, donc les joueurs qui sont actuels, qui étaient champions du monde et qui sont hors de forme, vont pouvoir revenir et s'inscrire dans un projet sur une nouvelle Coupe du Monde, une nouvelle compétition longue pour un mois, et qui va pouvoir les accompagner. On l'a dit, Guendouzi, Camara, Konaté, c'est encore beaucoup trop tendre, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'équipe B, il n'y a pas de plan B pour Didier Deschamps à l'heure actuelle, qui a testé, on le disait, plusieurs tactiques, et au lieu d'essayer de travailler des automatismes sur un seul système, a changé, fait des modifications et a plus l'air de vraiment savoir où il veut aller.
Le plan B, en fait, il l'a. Mais le plan B, le problème, c'est que s'il applique le plan B, il se renie. Parce que le plan B, c'est tous les types qu'il a laissés sur le carreau depuis quelques années.
Il y a un plan B, il y a quelqu'un. Voilà, Giroud.
Giroud, c'est Sissoko, c'est Tolisso. C'est tous ces mecs-là qui sont restés sur le carreau depuis 6 mois.
Il va falloir aussi voir les joueurs qui ont perdu du crédit. Théo Hernandez, très clairement, n'a pas été bon dans ce rassemblement. Mais... Jonathan Clauss, je crois que la hype, comme on dit, est terminée.
La hype, elle était dans le championnat de France, en fait.
Wissam Ben Yedder, on se demande encore ce qu'il fait en équipe de France. Et Didier Deschamps ne l'aide pas beaucoup, parce que le titulariser une heure contre la Croatie, en Croatie, ce n'était pas lui rendre service du tout, alors qu'il n'a déjà pas une efficacité folle en équipe de France. Et puis, le cas Antoine Griezmann, qui a perdu des points, mais qui est un cadre inamovible. Ça va être très compliqué. Et la relation entre Antoine Griezmann et Karim Benzema, et entre Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, elle est à revoir, mais de fond en comble. Ils ne se sont pas fait une passe de tout le rassemblement. Si vous arrivez à trouver, mis à part la passe à la 92e de Benzema sur le dernier match contre la Croatie, parce qu'il rate en plus une passe simple vers Griezmann, il n'arrive même pas à lui faire alors qu'il est à 5 mètres. Si vous trouvez une autre passe réussie entre Benzema et Griezmann, je vous paye un café.
Est-ce que cette mauvaise séquence, Ibrahima, ça peut abîmer la confiance des Bleus là, à la rentrée, comment vont-ils se sentir? Ou alors, bon, ils savent que ces matchs-là ne comptaient pas trop et ils peuvent retrouver de leur superbe après les vacances?
Non, je pense pas. De toute façon, on a l'habitude à ne pas voir une équipe de France dans le jeu, comme Naïm l'a dit, flamboyante. Hein. On n'attend pas... quand on regarde l'équipe de France avoir du spectacle en permanence. Et les Bleus, ils sont habitués quand même à ne pas avoir avant des grandes compétitions, à ne pas être super. Même à la Coupe du Monde, ils changent en cours de route, ils trouvent la bonne méthode finalement et se disent on va essayer de moins jouer, faire quelque chose de plus pragmatique, ce qui ressemble à Deschamps pour être champion du monde, parce qu'il n'y a que ça qui compte. Là, c'est une fin de saison, les joueurs là, vont partir en vacances, ils vont revenir et surtout ce rassemblement-là, comme Deschamps, il n'a pas réussi à trouver son équilibre de groupe, ce qui est important. Ce qui est important surtout pour Deschamps, c'est de savoir qui va être plus ou moins titulaire, qui sait qui ne va pas jouer du tout ou quasiment pas, qui peut venir prétendre à une place de titulaire. Sauf que là, dans ce rassemblement-là, comme personne n'a marqué de points, finalement...
C'est les anciens
ça facilite pour les anciens. C'est-à-dire qu'on sait que c'est impossible à l'heure actuelle de jouer en équipe de France sans Pogba et Kanté. C'est pas possible.
Et puis, d'autant plus que Pogba change de club, qu'un mec comme Griezmann, bon, je sais pas ce que ça va donner son avenir parce qu'il est que prêté, est-ce qu'ils vont lever l'option d'achat, on va voir ce que ça donne. T'as aussi beaucoup de types qui vont changer de club, changer d'environnement, changer d'atmosphère, peut-être que ça va leur permettre. Mais la vérité, c'est que les vrais vainqueurs de ce rassemblement, un mec comme Griezmann. Critiqué, alors il ne marque pas depuis 20 matchs, il ne fait pas de passe, il n'arrive pas à trouver. Oui, mais quand vous le sortez, c'est pire. Et donc, un mec comme Varane, il n'est pas sécure derrière.
Donc, conclusion, on a avancé, quoi. Didier Deschamps a avancé.
Mais tu sais, moi, je vais te dire, parce que Deschamps, commence à le connaître, Didier Deschamps, je le vois avec gros comme une maison. Au mois de septembre, il te fait un groupe qui ressemblera beaucoup plus à celui de 2018 qu'au rassemblement du mois de juin. Et puis, tu vas repartir à 2-3 postes près, parce que tu as des types qui ne sont plus au niveau international ou qui ont arrêté ou que machin. Mais tu vas partir au mois de novembre avec un groupe. Mais ça sert,
parce que Naïm, ça a servi à ça.
Voilà.
Ça a servi à ça. Tu comprends?
Donc, finalement,
je suis pas sûr qu'il ait sacrifié 4 matchs pour en arriver là.
Mais ouais,
je pense que c'est comme plus les circonstances qui font que
maintenant.
La conclusion.
Donc, docteur Simon, c'est pas si grave.
Si, quand même, moi ça m'inquiète. Bah, si, quand même.
Oui, mais Deschamps,
c'est sérieux.
Oui, mais Deschamps, pour de vrai, si c'est 23 joueurs, il en a déjà 15 ou 16, il en est sûr. C'est ceux qui devaient peut-être prétendre à une place qui se sont mis, qui sont tirés une balle dans le pied. Hein. C'est ça la conclusion du rassemblement, en fait.
Bien, bon, bah maintenant c'est les vacances pour les Bleus qui eh bien, vont se retrouver le 22 septembre, donc suite et fin de cette Ligue des Nations. Sous vos yeux, Antoine, toujours.
On repart, Stade de France.
22 septembre.
22 septembre contre l'Autriche.
Et le Danemark après là-bas.
Et le Danemark juste après. Et si l'équipe de France, à 3 mois de la Coupe du Monde, est reléguée en Ligue B de la Ligue des Nations,
c'est un
groupe avec l'Autriche, je ne sais pas combien de gens l'auraient parié. Il ne devait pas être beaucoup.
Surtout qu'ils l'ont un peu remporté, cette compétition.
Oui, ils sont tenants du titre. Après, c'est sûr que pour préparer une Coupe du Monde, il vaut mieux gagner des matchs, c'est sûr. Il y aura... Parce que normalement, après le 25 septembre, le déplacement au Danemark, et bien après, c'est la Coupe du Monde et le match du 22 novembre. Il y aura peut-être un match amical de préparation, peut-être.
C'est même pas sûr, parce que les championnats se terminent tellement près du rassemblement que les joueurs vont certainement. Ils vont peut-être même pas aller à Clairefontaine. Ils iront directement au Qatar. Ils se retrouveront là-bas.
Sauf si la Fédé négocie avec les clubs et arrive à les récupérer 3-4 jours avant la semaine protocolaire.
Ça paraît totalement improbable.
Et donc, bah, le début de la Coupe du Monde au Qatar, ce sera le 22 novembre et ce sera contre l'Australie.
Alex Valera. Ouais, c'est arrêté. Andrew Redmayne, incroyable gardien. Les pitreries d'Andrew Redmayne, les gesticulations d'Andrew Redmayne propulsent les Socceroos. It's a save that means the world to Australia. It's a save that means the World Cup for Australia.
L'Australie peut jubiler. Les Socceroos ont décroché hier le 31e et avant-dernier billet pour le Mondial 2022 au forceps. Après un succès à Doha face au Pérou, les Péruviens terrassés au tir au but après un score nul et vierge. Un match, il faut le dire, plutôt terne. Les Péruviens ont tiré sur le poteau. Bon, 3 tirs cadrés au total. Qualification méritée à l'arrivée des Australiens, Naïm ?
Oui, parce que de toute façon...
C'était à pile ou face.
Oui, c'était à pile ou face. Puis, de toute façon, le Pérou et globalement les équipes sud-américaines se sont tellement... le niveau s'est tellement affaissé qu'au final, l'Australie ne vole pas sa qualification. Après, l'Australie... Il y a eu une époque où l'Australie se qualifiait directement. Voilà. C'était presque une surprise de l'avoir terminé derrière le Japon et l'Arabie Saoudite. C'est une équipe qui... Oui.
Je trouve que c'est une surprise.
Ah oui, moi je pensais que l'Arabie Saoudite était un ton en dessous. C'est une équipe, l'Australie, qui a changé par rapport à l'époque où elle avait des joueurs qui évoluaient dans les clubs européens qu'on connaissait, les Cahill, les Brecciano, les Viduka, tous ces mecs-là. Aujourd'hui, des Mark Schwarzer, aujourd'hui c'est une équipe de joueurs. Alors il y a Jean Rau qui joue à Toulouse, en Ligue 2, qui est champion de Ligue 2. Mais après, c'est la plupart des mecs qui évoluent dans leur championnat. C'est devenu une équipe très régionalisée. À 2 ou 3 exceptions près, à part Rustic qui a gagné la Ligue Europa avec Francfort, mais qui joue très peu finalement. Ryan qui est le gardien remplaçant de la Real Sociedad. Le reste, c'est des joueurs très locaux. C'est une équipe qui est peut-être moins technique qu'une époque, qui ressemble peut-être plus à ce qu'on voudrait de l'Australie. Football très, très pas britannique, mais très anglo-saxon, très puissant, très physique, très bloc. Ça joue moins au ballon qu'une époque. Ouais. Voilà, c'est une équipe plus ennuyeuse.
Ça fait déjà quelques années, hein. Pour les avoir suivis en 2015, ouais, lors de la Coupe d'Asie qui remporte chez eux.
2015, tu n'avais pas le même joueur en 2015. Hein.
Ce n'était pas la même génération.
C'était quand même mieux
au
foot.
D'accord, mais c'est pas, tu ne te régales pas non plus.
Ah non, 2015, mais tu t'es rarement régalé avec l'Australie.
C'est une équipe ultra pragmatique, effectivement, qui ne marque pas forcément beaucoup de buts, sauf qu'on a des adversaires faibles, ils y arrivaient. Là, ils ont réussi à écarter les Émirats. Bon, c'était pas mal.
C'est pour ça qu'en fait, le souci de cette équipe, c'est que normalement, pour moi, hein, c'est meilleur que l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que déjà,
c'est oublié le bon travail d'Hervé Renard.
Hervé Renard a fait un super boulot, mais normalement, dans la logique des choses, c'est une équipe qui ne doit pas finir 3e de son groupe de qualification. Donc peut-être que ça a joué, peut-être que le fait de se dire « Ah bah la Coupe du Monde, on fait toujours partie des 2-3 équipes avec le Japon et la Corée qui sont sûrs d'y aller, puis là finalement, bah, ça ne joue à pas grand-chose. » Peut-être qu'ils sont passés par cette phase-là. Dans le jeu, c'est pas incroyable. Mais c'est une équipe dont il faudra se méfier, comme de toute façon on va se méfier de tout le monde à la Coupe du Monde. Donc voilà, c'est une équipe sans plus, qui ne vole pas sa qualification, mais qui n'est pas impressionnante non plus. Quoi.
Alors le fait saillant du match, bah, ça a été ce changement de gardien juste avant la séance des tirs au but. Andrew Redmayne, gardien de Sydney, qui vient remplacer Matthew Ryan, qui évolue à la Real Sociedad, un pari gagnant de la part du coach. Redmayne qui bien a un style particulier avant les tirs au but. Il gesticule dans tous les sens pour déstabiliser l'adversaire. Et ça a fonctionné. De pair et vient, eh bien, l'un tire sur le poteau, l'autre sur... sur lui, il avait bien anticipé. Bon, déjà, Ibrahima Traoré, est-ce que ça vous est arrivé de tirer un, peut-être, je ne sais pas si vous tirez beaucoup les pénaltys ici, quand même.
Non, pas beaucoup.
Non
pas
je ne sais pas, ou même, je ne sais pas, vous avez vu des gardiens sauter sur leur ligne dans tous les sens, enfin,
ouais, bah
pour
oui.
déstabiliser. Là, c'est fair play, ça, quand même, comment vous voyez ça
ah oui, parce que la difficulté, en fait, celui qui n'a rien à perdre dans l'exercice, c'est le gardien de but. C'est pas le tireur, donc... Oui, ils utilisent de tous les moyens, mais ça on le voit hein, de plus en plus maintenant. Je crois que c'est la Hollande qui faisait ça.
Tim Krul qui est rentré.
Chelsea.
Ouais. Chelsea, Mendy le fait aussi.
Mendy le fait avec Kepa. C'est un coup de bluff, mais c'est un coup de bluff maintenant qui est préparé. Hein. Les entraîneurs, ils ne font pas ça pour déstabiliser l'équipe adverse, mais ils font plutôt ça parce qu'ils sont sûrs que le gardien remplaçant sur une séance de tir au but peut les amener à la qualification, et là notamment.
Mais c'est, pour c'est... le tireur, c'est plus compliqué comme ça ou pas?
Ah oui. Bah oui, forcément, c'est plus compliqué. Ça joue, et puis il y a l'enjeu du match. Hein. L'enjeu du match, c'est une qualification directe pour la Coupe du Monde. Donc pour la concentration, ce n'est pas l'idéal.
Franck, notre gardien de but.
Pas oublier un truc, c'est aussi une stratégie. Et depuis pas mal d'années maintenant, on le voit bien dans les compétitions. Sortir ton gardien titulaire pour mettre celui qui est sur le banc, dont on sait que c'est un spécialiste des pénalties et des tirs au but. Et ça arrivait régulièrement en Coupe d'Afrique.
De plus en plus. On a vu Alain Giresse et les Tunisiens. Ouais,
donc, voilà,
c'est... Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas.
Après, t'as des entraîneurs qui veulent sortir le gardien et puis il ne veut pas. Hein. Tu te rappelles Kepa
et Chelsea. C'est arrivé aussi. Kepa et Kepa a raté son tir au but.
C'est l'exception qui confirme la règle. Le plus souvent, le titulaire sait que comme derrière lui, il y a un gars qui est peut-être effectivement moins bon, moins doué que lui, moins... performant globalement.
Oui, c'est parce qu'ils les acceptent aussi maintenant, les gardiens. C'est pas facile à accepter, mais il y a une préparation.
T'as des entraîneurs de gardiens, ce ne sont pas les entraîneurs, c'est pas un entraîneur type, c'est un entraîneur qui travaille à ça, qui travaille sur de longues séances.
Et c'est quand même là, un sacré pari. C'est quand même un sacré pari parce que si tu as ton gardien en 120 minutes qui te fait 3-4 arrêts monstrueux, qui est chaud, qui rassure ses défenseurs, qui est dedans, et que tu sors à la 119e pour faire rentrer un type qui, ça se trouve, n'a pas joué depuis 2 ans juste parce qu'au pénalty, il est meilleur. Enfin, ça peut aussi se retourner contre toi. Mais bon, après, c'est une stratégie, ça va être très certainement. Ouais. Je pense que. Mais parce que lui, en fait, il le fait en club. Il est très connu en Australie pour ça, gardien-là. Oui, il le fait à Sydney, il le faisait à Brisbane. C'est une attraction dans le championnat. Ce n'est pas forcément un grand gardien.
Mais c'est moins dramatique, en fait, si on change le gardien, au final, que les joueurs. On l'a vu à l'Euro, tout le monde est tombé sur Southgate avec la folie qu'il fait de faire rentrer deux joueurs. Rashford
et Sancho.
Voilà, il les fait rentrer, il ne touche même pas un ballon. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour un joueur, un gardien de but, il peut faire 90 minutes si son équipe est domine sans être vraiment concerné. Alors qu'un joueur, il a besoin de toucher des ballons, il a besoin d'avoir des sensations. Et en plus, c'est quel enjeu là, c'est pour que l'Angleterre gagne l'Euro, tu fais rentrer deux jeunes que tu n'as pas concerné du tout pendant la compétition. Et ça se retourne contre toi, c'est eux qui ratent les pénaltys. Donc c'est à double tranchant, mais c'est beaucoup plus facile de le faire avec un gardien de but qu'avec des joueurs
surtout
de champ.
Surtout s'il est préparé. Surtout si mentalement il est préparé à ça.
Il sait
très bien que lui il va entrer, mais on le voit bien dans d'autres disciplines. Hein. Je pense au handball. T'as des gars qui entrent et ils rentrent dans la cage, c'est uniquement pour ça aussi.
Ouais.
Donc moi je trouve que c'est extrêmement bien pensé. C'est bien qu'aujourd'hui tu aies cette possibilité-là dans ces séances-là. Pourquoi est-ce que le sélectionneur se priverait d'un véritable atout? Il sait que son gardien. Tout capitaine qu'il est, bah peut-être qu'à un moment donné, il est aussi un peu cramé et qu'en faisant entrer ce type-là, il y a une possibilité, effectivement, qu'il aille gratter, déstabilise, comme ça a été le cas, puis sort parce qu'il a de la longe aussi, hein, Redmayne. Hein. Je ne sais pas si vous avez revu les images, mais il a vraiment de la longe et il a pris le faire pour ça.
Tu fais ça souvent. Alors, les Pays-Bas en 2014, en 2018, c'est une exception parce que c'est complètement fou. Il y avait Silesen dans les buts. Bon, mais tu fais ça dans des sélections où finalement, tu n'as pas tellement d'écart entre le gardien remplaçant et le gardien titulaire. Enfin, tu n'aurais pas idée en Allemagne de dire à Neuer, tu sors, tu peux rentrer ton remplaçant. Ça n'existe pas là-bas.
Antoine,
les nouveaux règlements aident d'ailleurs, parce qu'avec 5 changements, on peut se garder un changement.
Ça fait partie de la stratégie.
Dans l'optique de la Coupe du Monde, ça pourrait être une question à poser à Didier Deschamps, parce que Mike Maignan est un spécialiste de l'exercice, alors que Hugo Lloris n'a pas une énorme réussite dans les tirs au but. Donc la question pourra éventuellement se poser pour l'équipe de France. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Australie, en premier adversaire d'une Coupe du Monde...
On a quasiment le même groupe, là.
Ça va obliger l'équipe de France à se souvenir que ça avait été très, très compliqué à Kazan. très très
en compliqué. En 2018, c'était le premier match.
Les Bleus qui avaient été menés 1-0 par, sur un pénalty concédé par Umtiti qui avait joué au volleyball dans sa propre surface. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Et les Bleus qui s'en étaient sortis un petit peu miraculeusement. Donc c'est important, très important pour les Français de se souvenir. Là, ce sera au cadre de, d'en parler à ceux qui seront plus jeunes, de dire voilà, les Australiens, il ne faudra pas les prendre à la légère. C'est compliqué de les jouer. Les Bleus n'avaient gagné que 2-1 sur un but contre son camp en fin de rencontre, c'était c'est un souvenir à garder.
C'est là qu'ils changent d'ailleurs de système après. L'équipe de France est deux joueurs parce qu'ils ont vu que c'était
Matuidi revient, oui, parce qu'il y avait Dembélé sur les ailes.
Ils avaient changé contre le Pérou. Après, ils avaient fait des changements. Ils étaient revenus après contre le Danemark.
Ouais. Voilà.
France-Australie, donc le 22 novembre. Après, dans ce groupe, il y aura donc également le Danemark qui va bien, ou plutôt pas mal en ce moment, en tête de son groupe de Ligue des Nations. Et puis la Tunisie aussi, qui elle aussi pourrait bien donner du fil à retordre aux Bleus.
بالإمكانية استغلال هذه الوضعية للمنتخب التونسي تم بن سليمان يختار التصوير ولا أروع ولا أروع الهدف الثالث للمنتخب الوطني التونسي 3-0 أحسن اختتام من عصام أجباني ثاني أهدافه في الكيرين والمنتخب التونسي بطل دوري الكيرين الدولي لكرة القدم.
La sélection tunisienne retrouve des couleurs en Asie. Elle vient de remporter la 33e édition de la Kirin Cup, un tournoi organisé au Japon et qui regroupe plusieurs sélections. Alors, après avoir disposé du Chili 2-0, la Tunisie a surclassé le pays hôte japonais tout à l'heure en finale. 3-0, c'est la première fois qu'une nation africaine remporte ce trophée, mais au-delà de ce titre met en relief la bonne passe actuelle des Aigles de Carthage qui sont invaincus depuis leur élimination en quart de finale de la dernière CAN. C'était contre le Burkina Faso en janvier. Ça fait donc une série de 6 matchs sans défaite, 4 victoires de nul avec 11 buts marqués, 0 encaissés. Tout de même, Francky, la science, peut-on parler d'un vrai renouveau de la sélection tunisienne ?
On va pas parler d'un grand renouveau parce que le groupe est quasiment à l'identique.
Un début de renouveau.
Mais dans l'état d'esprit, certainement, ça nous change de ces équipes tunisiennes qui ne jouaient pas, qui ne prenaient pas vraiment leurs responsabilités sur le plan offensif. Là, on a du jeu, on a une équipe qui reste pragmatique parce que c'est aussi l'ADN du football tunisien, du joueur tunisien. Et puis, je pense qu'il y a aussi la patte de Jalel Kadri, qui était l'adjoint du dernier sélectionneur.
Ouais. Mander Kebayer, qui a été remercié au lendemain de la CAN.
Mais qui avait déjà un petit peu travaillé quand Mander Kebayer s'était retrouvé covidé pendant la CAN. Il avait d'ailleurs contribué à éliminer le Nigeria, si vous vous souvenez bien, c'était lui sur le banc. Bref, ça avait été une belle perf sur le plan tactique. Jalel Kadri, aujourd'hui, il est entouré d'anciens de la CAN 2004, Boum Nigel, mais surtout Selim Benachour. Et je pense que lui aussi apporte beaucoup sur le plan des idées, sur le plan ce qu'un champion peut apporter d'ouverture d'esprit. On en est là aujourd'hui. Et vous verrez que c'est très paradoxal. La Tunisie va bien, les Aigles de Carthage vont bien, sont performants, alors que les clubs tunisiens ne performent plus vraiment. L'Espérance, le CS Sfaxien, l'Étoile du Sahel sont un petit peu moins bien, n'ont pas été très bien, notamment en Coupe Interclub. Mais les Aigles de Carthage, eux, ils sont solides. Ils n'ont pas marqué au Botswana lors de la deuxième journée, mais ils se sont créés vraiment un paquet. Ils n'ont pas eu la chance.
Il n'y a pas eu énormément de grosses occasions non plus.
Ils auraient pu faire un 6 sur 6 comme d'autres l'ont fait, comme le Maroc.
Oui, bien entendu. Mais...
Et là, dans cette compétition, tu sors le Chili, ce qui n'est pas mal. Tu sors
le Japon quand même.
Au Japon, tu les... Ça fait du bien. C'est-à-dire que c'est une bonne préparation, je trouve.
Il ne faut pas oublier qu'ils l'avaient préparé, la Coupe Kirin, parce que justement, contre le Botswana, ils avaient fait souffler des joueurs, justement, en prévision de ce tournoi, notamment Msakni, qui avait été un peu touché face à la Guinée-Équato. Il ne faut pas oublier non
mais plus. Mais ce n'était pas l'objectif de la gagner.
Non, ce n'était pas l'objectif de la gagner.
Je pense que la CAN est aussi...
Tu ne vas pas au Japon pour te prendre une tôle. Donc, s'ils y ont été, c'est quand même qu'ils avaient préparé le truc. Il ne faut pas oublier non plus qu'ils ont fait la Coupe Arabe fin 2021, ils sont finalistes avant la CAN. C'était quasiment déjà la même équipe. Je pense que le vrai atout de la Tunisie, au-delà d'être, c'est vrai, de ne pas prendre de but, même si on peut relativiser les adversaires sur cette période, c'est d'avoir une vraie continuité dans le groupe. Je pense que ça change de beaucoup d'équipes où tu arrives avec un rassemblement, tu as 23 joueurs. Deux mois après, tu fais un rassemblement, tu en as 10 sur 23 qui ne sont plus là. Tu fais un troisième rassemblement, tu en as encore 10 qui changent. Ils ont toujours maintenant les mêmes joueurs.
Là, il y a une ossature, mais là, cette fois-ci, Kazri, Skiri, Brown n'étaient pas là. Kazri ne
jouait pas parce que Kazri a fait le barrage avec Saint-Etienne. C'est pour ça qu'il n'a pas été pris. Skiri, Brown revenait de blessure.
Mais il y a un peu de renouvellement quand même.
Il y a du renouvellement. Aussi, hein. Ils ont pris notamment Rabi Kaïb, qui est libano-suédo-tunisien, qui joue en Suède.
Ouais, mais ça reste. Ça reste encore pour l'instant à la marge.
Bien sûr.
Parce que tu as une Coupe du Monde, tu prépares la suite. Mais l'objectif,
ça
reste là. Il
y a Montasser Talbi qui joue.
Bilalifa qui est en train de s'imposer finalement tardivement en charnière centrale. Tu as Leidouni qui a marqué beaucoup de points justement sur le rassemblement là, de la CAN milieu défensif. Tu as Ben Rothman qui était titulaire en finale de Coupe Kirin, qui a marqué d'ailleurs.
Romdan
qui est rentré justement contre le Basava, contre le Botswana, qui était très bon. Là où moi, j'ai un petit bémol sur la Tunisie, c'est que je me dis, ils ont des attaquants de qualité, parce que Sliti, Jaziri, Djebali, même Hannibal Mejbri, qui est très jeune, qui n'a pas encore vraiment joué en pro avec Manchester, mais qui est un garçon qui a un vrai toucher de balle, tu sens qu'il a un truc. Finalement, c'est une équipe qui a la possession, qui vont se créer pas mal de situations de but, mais qui ne vont pas marquer énormément. Tu as eu 4-0 contre la Guinée-Équato, c'est un quasi-phénomène, parce qu'en plus, ils étaient réduits à 10.
C'est ce qui manquait avant la Tunisie, vraiment un vrai buteur, on l'a vu.
Mais là, il y a le retour, n'oubliez pas quelque chose, tu as le retour de Tahar Yassine Gnissi, qui a été obligé, à un moment donné, de sa suspension de s'exiler au Koweït, qui revient. C'est-à-dire qu'on a de nouveau, on lui a ouvert la porte. Et il se met au service de l'équipe, c'est plus la star. La star, c'est l'équipe aujourd'hui. Avant, tu avais 2-3 starlettes dans cette équipe. Ça aussi, ça n'a pas aidé toutes ces dernières années.
Oui, après pas mal d'ingérences de la part de la fédération tunisienne. Aussi, on a vu l'épisode avec Alain Giresse.
Il y a quand même un truc par rapport, j'ai toujours les parallèles avec le Maroc et l'Algérie, c'est bien normal. Je pense que la Tunisie est l'équipe qui a le plus d'homogénéité dans son groupe. C'est-à-dire que vous avez une équipe type, mais quand vous faites sortir 3, 4, 5 mecs, les mecs qui vont rentrer ne vont pas forcément faire baisser le niveau. Contrairement à l'Algérie ou au Maroc, où selon qui tu changes, là, tu peux vraiment être en difficulté dans certains secteurs de jeu. La Tunisie, ça me paraît plus homogène.
Ibrahima, la Tunisie, poil à gratter du groupe D à la Coupe du Monde ?
Oui, moi, j'attends de voir, parce qu'on sait, finalement, c'est jamais vraiment à quoi s'attendre avec la Tunisie. Donc là, ils sont sur une bonne passe. Et comme on dit, la préparation pour la Coupe du Monde, moi, je pense du principe que la préparation pour la Coupe du Monde, ça se fait à partir de septembre. Là, oui, il y a des choses qui sont validées depuis un certain temps. Le groupe, il ne bouge pas. Ils ont réussi. C'est un peu à l'image de leur CAN.
C'est quand même des acquis. Tu ne trouves pas que ce sont des acquis, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui ? Il vaut mieux être dans cet état-là aujourd'hui, en juin,
Mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce que je dis, c'est que, par contre, on n'arrive pas à avoir un vrai curseur sur le véritable niveau de cette équipe. Tunisie qui est capable de poser des problèmes à la France,
Qui est capable d'éliminer le Nigeria et de se faire sortir par le Burkina.
Et voilà, mais c'est exactement, c'est un peu à l'image de leur dernière CAN.
Elle déçoit souvent cette équipe de Tunisie. Allez, on continue de parler de football africain avec l'affaire Sylvain Gbogbo. La FIFA a tranché, Sylvain Gbogbo a écopé de 18 mois de suspension pour son contrôle antidopage positif à la triméthazidine. C'était le 16 novembre dernier, ce contrôle antidopage. Le gardien international ivoirien était jusque-là suspendu provisoirement et n'avait pu disputer la CAN au Cameroun. Alors depuis le début, Sylvain Gbogbo clame son innocence dans cette affaire. Rappelons que la triméthazidine s'est retrouvée dans son organisme après avoir pris fin mars 2021 et durant quelques semaines seulement un médicament prescrit par un médecin de la Fédération ivoirienne, ceci pour soigner une mauvaise circulation sanguine à son œil droit, un produit qui n'est pas sur la liste des produits dopants depuis longtemps, comme nous le raconte le docteur Jean-Pierre de Montenard.
C'est un produit qui n'est pas nouveau. En 2014, il est classé comme stimulant. En 2015, il est classé dans les modulateurs métaboliques, c'est-à-dire qu'il intervient au niveau du myocarde, c'est-à-dire des problèmes cardiaques, ou éventuellement des problèmes aux yeux. C'est quasiment plus utilisé en France. Il n'y a aucune étude au monde qui démontre que le produit améliore les performances.
Alors, voilà l'avis de Jean-Pierre de Montenard. D'autres médecins affirment au contraire que la triméthazidine peut améliorer le métabolisme cardiaque au moment de l'effort. En tout cas, la FIFA a reconnu que Sylvain Gbogbo n'avait pas ingéré ce produit de manière intentionnelle et n'avait commis aucune faute. Et alors qu'il risquait quand même 4 ans de suspension, comme le prévoit le règlement de l'AMA, l'Agence mondiale antidopage. L'Ivoirien n'a donc écopé que de 18 mois, c'est beaucoup moins. Mais est-ce que cela reste, selon vous, une injustice pour Sylvain Gbo, Franck?
Après, moi, je suis pas toubib, hein, je suis pas médecin, mais évidemment, je le ressens pour lui comme une injustice. Forcément. Si la FIFA, j'ai pas lu les attendus, hein, si la FIFA dit, s'il a pas commis de faute, mais bon, tiens, prends ça quand même, même si c'est moins que d'habitude, comment cet homme, comment il vit actuellement? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il vit? Comment ça se passe pour lui sur le plan psychologique aussi, parce qu'il faut suivre aussi ces garçons-là. On se souvient comment ça s'est passé durant la Coupe d'Afrique des Nations, où il n'était pas bien. Il n'était pas bien.
Oui, il n'y avait pas de fédération à la Côte d'Ivoire à ce moment-là. Il était plutôt abandonné.
Il était plutôt abandonné.
Patrice Baumel l'a soutenu.
Oui, mais j'aimerais bien savoir où s'il en est sur le plan psychologique. Alors après, il y en a qui diront toujours, ouais, il est peut-être au bout de son parcours professionnel de gardien. Il n'empêche,
33 ans.
Il avait quitté le TP Mazembe pour se relancer du côté du championnat éthiopien, où il y a une nouvelle dynamique.
Walkite City.
Voilà. Mais aujourd'hui, il est le, je ne vais pas dire le grand perdant, mais il est sacrifié.
Est-ce que le médecin de la fédération ou la fédération a reçu une amende ou quelque chose? Parce que si ça vient de la fédération, c'est les premiers responsables.
Ouais, bah apparemment non, mais en même temps, le nouveau président de la Fédé, il n'y a pas si longtemps que ça.
Le souci dans un cas comme ça, et c'est malheureusement souvent le cas, c'est qu'il faut faire une jurisprudence.
Merci.
Oui, vraiment.
C'est ça. Mais voilà, il a tout dit. Il faut que des fois que des exemples servent à changer les règles, c'est tout. Là, on dit que ce n'est pas de sa faute, comme Franck le dit, mais on lui donne 18 mois. Alors, ce n'est pas de ta faute, mais on ne t'a pas donné la sanction maximale, donc on a un peu compris. Il faut arrêter. Les avis, ils ne sont même pas concordants. Il y a un médecin qui te dit que oui, ça peut être comme un stimulant. L'autre, il te dit que non. Il faut faire, en fait, parfois preuve de bon sens, tout simplement. Et pour les joueurs, nous, je sais qu'en Allemagne, c'était comme ça. Quand on allait acheter un médicament, même à la pharmacie, on demandait s'il faisait partie de la liste NADA. C'est pour éviter tout problème. On a le droit de prendre du Doliprane, mais pas de l'aspirine. Elle est où la différence?
Et en sélection, comment ça se passait?
En sélection...
C'est peut-être moins rigoureux, là, non?
Oui, c'est peut-être moins rigoureux, mais justement, ça doit montrer à toutes les sélections qu'en fait, oui, il y a un joueur de la sélection qui peut être important.
Il y a eu des problèmes, souviens-toi, avec les Maliens.
Les Maliens. Je crois qu'avec... c'était aussi Onana qui n'avait pas eu un problème comme
ça.
Si
Onana a été suspendu, bien sûr.
Exactement.
Les Maliens, donc, alors, on perd des bons joueurs. Désolé si ça arrive au Cameroun et qu'ils perdent Onana, c'est pas la même chose quand même. D'avoir Onana dans les buts ou de pas l'avoir. Donc, c'est-à-dire que tout le monde doit prendre un peu de conscience et de travailler sur le sujet pour savoir qu'est-ce qu'on peut donner ou qu'est-ce qu'on ne peut pas donner. Et la FIFA aussi doit faire preuve de bon sens.
Sa suspension va s'achever le 23 juin 2023, le jour du match d'ouverture de la CAN en Côte d'Ivoire. Est-ce que Jean-Luc Gasset pourrait le mettre dans sa liste? Ça vaut la peine ou...
Après, tout dépend des relations qu'il a avec le joueur. Moi, je pars d'un principe, c'est qu'il faut toujours sélectionner les meilleurs. Si d'ici 2023, il y a trois gardiens ivoiriens qui sont meilleurs que lui, il faut prendre ces trois-là.
Ouais, parce que ça fait court. Enfin, là, il ne joue pas. Il joue pas.
S'il ne joue pas, on ne voit pas trop comment Jean-Louis Gasset, aujourd'hui, pourrait l'appeler. S'il joue, et effectivement, comme le dit Naïm, il est compétitif dans ce cas-là, il faut rappeler qu'il était titulaire. Et que Badra Ali Sangaré a pris à relever le gant parce que justement Gbowo n'était plus là. Donc non, ça paraît très compliqué. Mais Brahim, moi je pense vraiment à lui, quoi. Ça doit être très très compliqué.
En 10 secondes, c'est jouable, mais pas pour qu'il joue.
C'est jouable parce que c'est tout
forme.
À fait possible qu'on décale la CAN.
C'est autre chose.
Il a raison en plus.
Une porte ouverte sur un autre débat, peut-être demain, en compagnie d'Annie Gasnier pour un nouvel épisode de Radio Foot International. Merci beaucoup à vous, messieurs. C'était un grand plaisir. Et à vous, chers auditeurs, bonne fin de journée à vous.